Bonsoir, il est 19h, vous êtes sur Radio Campus Paris et c'est l'heure de la matinale.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
On le trouve dans les engrais, mais aussi naturellement dans... Excusez-moi, on le trouve dans les engrais, mais aussi naturellement dans les sols. Le cadmium, un métal lourd, est présent dans de nombreux aliments via la contamination des sols agricoles. Il est très compliqué de dépolluer, Dans un rapport publié en mars, l'agence sanitaire ANSES confirme que l'alimentation est en France la première source d'exposition au cadmium, métal toxique pour la reproduction et cancérigène en cas d'exposition prolongée. Aujourd'hui, la quantité de cadmium qui entre dans les sols provient pour 50 à 70% des engrais phosphatés, d'après l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. À noter que les produits issus de l'agriculture biologique contiennent en moyenne 48% de cadmium en moins que ceux issus de l'agriculture conventionnelle. Depuis une quinzaine d'années, les travaux de l'ANSES mettent en évidence une surexposition d'une partie de la population française au cadmium par l'alimentation. Le cadmium est classé comme cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction. Il est reconnu comme cancérogène certain pour le poumon au milieu professionnel. Il est aussi suspecté d'induire d'autres cancers, pancréas, prostate et sein par exemple. Le cadmium est un contaminant invisible, omniprésent et bioaccumulable. Même à faible dose, une exposition prolongée constitue un véritable enjeu de santé publique. Ce sont les produits à base de céréales qui sont les premiers responsables de notre exposition au cadmium. Il faut donc varier son alimentation et privilégier les fruits et légumes frais pour limiter l'apport en cadmium. Les principales sources d'exposition au cadmium sont le tabagisme, qu'il soit actif ou passif. La consommation de coquillages et de crustacés, ainsi que d'abats, constitue également un facteur d'exposition. En cas d'exposition prolongée, même à faible dose par voie orale, principalement par l'alimentation, le cadmium entraîne des atteintes rénales pouvant évoluer à terme vers une insuffisance rénale et une fragilité osseuse, augmentant le risque d'ostéoporose et de fracture. Pour réduire l'exposition au cadmium tout en maintenant une alimentation équilibrée, l'ANSES recommande de limiter certains produits à base de blé sucré et salé, tels que les céréales du petit-déjeuner, gâteaux et biscuits, introduire davantage de légumineuses dans les repas à la place des aliments à base de blé comme les pâtes, varier les sources d'approvisionnement, alterner les denrées provenant de différentes sources ou filières pour éviter une exposition répétée au cadmium. En résumé, privilégier les fruits et légumes et limiter les produits transformés. Et maintenant, le sommaire. Au sommaire de cette émission, nous commencerons par un reportage lors de la release party d'Ocali, un groupe de musique. Ensuite, nous aurons le flash info de Clotilde. Nous aurons la chronique actu de Violette. Et une chronique libre de Salomon Patrick. Et bien entendu, nous aurons le Zoom, exposition Diseuse de silence par Betty. Et maintenant, on enchaîne avec... ça va être le bazar. On enchaîne avec le reportage.
De 19h, 93.9 FM.
Et aujourd'hui, nous vous proposons un reportage de la release party de Cali, un groupe de musique.
Bonsoir Gaël, bonsoir Florent, merci de nous accorder cette interview, ça nous fait super plaisir. Aujourd'hui, du coup, on est le 4 février 2026, on est à la Boule Noire pour votre release party. On a des titres qui sont quand même hyper éclectiques, une vingtaine de minutes d'écoute, et c'est des titres aussi que j'ai vu qui sont sortis quand même des fois il y a plusieurs années, donc ça se voit que c'est un parcours que vous avez construit au fur et à mesure. Donc nous, le public, on vous connaît de The Voice, de votre reprise de London Grammar, puis vous évoluez avec vos propres clips, vos propres compositions. En fait, on voit que cette EP, c'est un peu l'aboutissement d'un parcours, mais le début d'une nouvelle aventure. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ça concrètement?
Oui, c'est un aboutissement de 3 ans. Oui, de 3 ans de live, de 3 ans de beaucoup de choses. Vous avez parlé de The Voice. On est passé aussi sur Arte Concert et il y a eu 100 concerts depuis cette apparition sur TF1. Mais ce n'est que le début, comme vous disiez.
Mais oui.
Oui, il y a des morceaux qui sont un peu sont espacés dans le temps. Mm-hmm. Par rapport à la sortie, mais ça s'explique aussi par la construction du projet. Parce que le premier clip que tu as pu voir, qui est Traveler, On l'a fait pendant le confinement parce qu'il fallait bien commencer par quelque chose. La musique ne me suffit pas. Et donc, il a fallu faire des clips, donc sortir les morceaux. Et en parallèle, on a commencé à beaucoup jouer la première année du premier clip. Donc, on s'est beaucoup attardé sur le live d'abord.
Traveler, en fait, Traveler était le premier, on va dire, la première étape, la première marche qu'on a tapée. En se disant, ça y est, on y arrive, on peut faire un clip. Enfin, c'était plutôt Gaëlle, c'était lui montrer qu'elle était capable de faire un clip toute seule. C'était surtout ça. Parce que je pense qu'elle n'avait pas confiance en elle et que Traveler lui a montré. Gathering est arrivé dans la foulée. Et c'est à partir du moment où on a sorti Gathering en 2023 qu'on a lancé les lives, effectivement. Et où on vient de lever la tête après 3 ans. Je crois qu'on relève juste la tête ce soir, en fait, après 3 ans de live. Où, en fait, un copain nous avait dit, bon, faire des clips, c'est bien, mais jouer, c'est mieux quand même. Et il nous a inscrit un tremplin, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est-à-dire que c'était une volonté de notre part de sortir un EP 5 titres. C'était pas juste qu'on en avait 5, c'est que nous on joue en live depuis 3 ans, donc on a un peu plus d'une heure de concert.
Ouais,
on a à peu près 12 ou 13 morceaux. Mmh. Et là on voulait en fait dans cet EP amener quelque chose de folk, des cordes en fait. On voulait vraiment que la guitare soit très présente. Mmh. Et je pense qu'on voulait aussi faire un peu un parallèle avec ce qu'on a vécu depuis 3 ans, c'est-à-dire des émotions diverses et variées. Ouais, exactement. Mmh. On a vécu un deuil très dur, on en a fait une chanson, on a vécu un moment de bonheur incroyable avec une rencontre, on a fait Gathering. Je pense que tout artiste est imprégné par ce qu'il ressent.
Et chouette, c'est que vous faites plein de transitions avec mes prochaines questions, je sais pas laquelle choisir. mais justement, sur la signification de votre EP et des paroles, du coup, Gaëlle, tu chantes dans différentes langues, différents dialectes, et justement, tu chantes en anglais, en français, en éton et parfois même en zoulou, j'ai vu en concert. Donc en fait, t'as quand même une variété assez polyglotte de plein de textes différents. Qu'est-ce que ce changement de langue t'apporte en fait?
Alors le changement de langue pose déjà une base. C'est que je veux que le monde entier entende que je suis une métisse culturelle. D'où le fait de chanter en français, parce que je suis née au Cameroun, j'ai été adoptée à 12 ans, je suis arrivée en France. Mmh. Au Cameroun, je parlais l'étone, qui est mon dialecte. Au Cameroun, j'ai découvert le zoulou, qui n'est pas mon dialecte, mais il y a une consonance, voilà, un truc qui me ramène à mon enfance, et l'anglais pour s'ouvrir au monde, ça me représente moi. Mmh. Voilà, c'est pas quelque chose de choisi. Je n'ai pas les mêmes appuis, je n'ai pas forcément les mêmes ressentis, mais ça fait partie de ma vie et du fait que j'ai un pied sur chaque continent,
bien sûr,
avec des histoires différentes, voilà, forcément des ressentis différents.
Puis même quand tu changes de langue, tu as un changement dans tes cordes vocales qui s'opère aussi. Donc tu as une grande variété aussi de...
Complètement. J'ai été très surprise de ma voix en français. Parce que c'est pas du tout les mêmes syllabes.
Oui, c'est sûr. Bah
c'est pas du tout la même façon d'amener les choses. Enfin, pour moi, il était important que tout ça soit réuni.
Et puis, petite question pour Florent, du coup. Donc j'ai écouté une de vos interviews que vous avez données il y a quelques mois. Et ça s'appelle En aparté. Et dedans, tu expliques que... Toi, tu n'as pas grandi avec beaucoup de musique, puis tu t'y es mis très tard, vers 19 ans, parce qu'on t'a donné une basse, et qu'après, progressivement, ça s'est fait, et que tu apprends encore plusieurs instruments comme le piano ou la guitare. Est-ce que, du coup, tu peux expliquer ce que ça fait d'arriver dans le milieu musical? Et quand on se lance dans une carrière professionnelle, il faut quand même avoir acquis un bagage technique assez impressionnant. Qu'est-ce que ça fait de se former en autodidacte, de prendre des choses par-ci par-là, et comment ça influe ton processus de composition très long?
Non, mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que c'est des questions qui m'ont beaucoup tourmenté. Je ne me sentais pas légitime pour jouer, pas du tout. Même moi, personnellement, même pas par rapport aux autres. Moi, dans mon processus, il fallait un diplôme, il fallait avoir fait du conservatoire. Mais en fait, j'ai composé déjà avant de jouer. C'est-à-dire que moi, on a passé 1 ou 2 ans où j'ai commencé à composer un petit peu. Donc, je pense que je l'ai fait en toute naïveté. Tout simplement, c'est juste que je voulais donner de la matière à Gaëlle pour qu'elle embauche. Donc, je ne me voyais pas musicien quand je l'ai fait. Je pense que c'est quand Gaëlle m'a dit, en fait, c'est toi que j'embauche. Donc, j'ai dit non d'abord et après, elle a insisté. Mais vraiment, ça s'est passé comme ça. Mais en fait, je crois que le chemin faisant, j'ai un peu dédramatisé. Surtout, je pense qu'il y a beaucoup de bons, très très bons musiciens, des très bons guitaristes. On a eu la chance de jouer avec Yarol Poupeau, qui est un excellent guitariste, avec Mathieu Chédid. Ils ont décelé ça en moi. Ils m'ont dit déjà arrête de dire que t'es pas musicien, parce que moi je me suis présenté comme non musicien pendant très longtemps. Ils m'ont fait comprendre qu'en fait il fallait beaucoup de temps pour déconstruire ce qu'on a construit en musique, ce qu'on a appris en fait. Oui. Et que souvent un musicien qui a passé beaucoup de temps à apprendre doit déconstruire pour arriver à une sorte de naïveté. Oui. Ça, j'y arrive aussi parce que je suis entouré d'un groupe extrêmement bienveillant. Vous vous mettez dans un groupe, je pense que je suis dernier des guitaristes. Hein. Mais vraiment, on a cette philosophie-là dans le groupe qui vise à dire que, en fait, une personne, quand elle est au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, en fait, elle est capable de gravir des montagnes. Mais vraiment, je crois que l'histoire de la vie de Gaëlle le montre. Hein. Enfin, moi, je vis à quelqu'un qui ne devrait pas être en vie. Quelqu'un qui n'a jamais pris de cours de chant, quelqu'un qui n'a jamais fait de cours de cinéma, mais qui aujourd'hui monte des clips, chante. Donc en fait, Gaël n'a fait que déconstruire ce que j'avais en tête et exploser le cadre que je m'étais plus ou moins mis.
Et un guitariste producteur très inspirant également. Parce qu'il il lance des fleurs comme ça, là, il jette des fleurs.
Mais dans la façon dont vous parlez tous les deux l'un de l'autre, on sent qu'il y a vraiment des modèles d'inspiration chacun, que chacun s'admire pour plusieurs points, et c'est ce qui fait votre complémentarité aussi qui est très riche et qui s'entend aussi dans votre EP, donc moi j'aime beaucoup ça.
Merci beaucoup.
Mais avec plaisir. Et puis justement, vous en avez un peu parlé tous les deux, dans tout ce qui est la patte esthétique de Okali. Donc vous avez une empreinte qui est quand même assez marquée, déjà pour la cover de l'EP. Anoussa m'a dit que c'est toi qui l'as dessinée, moi je trouve ça super joli. Et qu'on a cette cover, on a tout de suite un monde visuel qui s'ouvre à nous avec des fleurs, c'est très pop, c'est très coloré. Puis il y a une petite touche enfantine aussi dans la façon dont c'est fait.
Complètement.
Donc on sent ce pont à tes racines que tu dresses aussi. Et moi c'est vraiment les clips, parce que vu que c'est des choses auxquelles je suis très attentive, j'ai beaucoup aimé. Le clip de Gathering, il est tourné au château de Rouet dans la Loire-Atlantique. Et c'est super joli avec les sculptures un peu transparentes, mythologiques un peu. Et dans Traveler, on a vraiment des plans qui sont très originaux, des trucs beaucoup plus bruts et beaucoup plus en symbiose avec l'environnement, la nature et les ponts que tu fais avec tout ce qui t'entoure. Comment est-ce que ça vous est venu de créer ce monde-là et de comment genre l'exploiter ?
C'est vrai que j'ai une canne, mais je marche beaucoup. Très, très lentement, mais je marche beaucoup. Donc j'aime aller observer la nature ou même parfois escalader, même si c'est un peu laborieux parfois. Et puis surtout, j'ai grandi au fin fond du Cameroun, à moitié dans la forêt. Donc j'ai forcément ce socle qui m'amène à la nature automatiquement. Mon père travaillait en forêt, donc j'ai appris à regarder, à observer ou à cadrer peut-être inconsciemment. Je pense que c'est pas très compliqué de créer son monde.
Ce que t'affectionnes se transparaît à l'écran
complètement. Et puis il n'y avait pas trop de réflexion derrière. Je voyais ça, donc il fallait que ce soit ça qui soit retranscrit. J'ai beaucoup de mal à mettre de mots sur la construction des clips parce que je le vis in situ. Et en général, les plans se font in situ, parce que sur le moment, et selon les mouvements, les couleurs ou la température, j'ai tendance à travailler sur le vif. Et j'avais arrêté depuis longtemps de peindre et de dessiner et de faire quoi que ce soit. Quand le projet Okali est né, tout a repris vie. Et comme je fais fusionner les langues, j'étais obligée de faire fusionner les différents médiums pour m'exprimer, voilà. Parce que j'en ai besoin.
Mais même quand on y repense, c'est-à-dire que la musique, pourquoi la musique se limiterait à la musique en fait ? Pourquoi aujourd'hui on prend ce spectre-là en fait, alors que Gaël nous le rappelle, enfin moi me l'a toujours montré, que la profondeur vient aussi de multitudes de points de vue hein, et d'angles de vue. Surtout la musique, t'aimes le cinéma. Moi, on parlait de souvenirs musicaux à un moment. Moi, un des premiers souvenirs, c'était Château de ma mère, par exemple. Enfin, des musiques de films, quoi. Quand vous avez les deux qui sont en symbiose, enfin, vous êtes dans un endroit. Mais je pense que tous, hein, on a tous une image qu'on peut associer à une musique.
Moi, je chante en zoulou parce que je suis tombée sur un film quand j'avais 7 ans qui s'appelle Chaka Zoulou. C'est une trilogie de 10 heures, assez long. Et ça m'a marqué à vie.
Et pour finir justement sur le Zoulou, alors je te le ferai pas à la fin de l'interview en Zoulou, c'est promis. Mais Gaëlle, en fait, alors ça revient à ça, c'est que Gaëlle, bon, déjà, elle a une super oreille, c'est-à-dire qu'elle a fait quand même, elle a repris du Zoulou à l'oreille. Mais surtout, je pense que c'est quelqu'un qui a une grande exigence, finalement. C'est-à-dire qu'elle sait quand elle aime et elle sait quand elle aime pas. Et honnêtement, vu que c'est notre leaduse dans le groupe, enfin, pour nous, c'est du caviar. Moi qui l'ai connue avant ce projet, je pense qu'elle a toujours, cultivé cette image. Enfin, l'image de façon générale, je pense qu'elle a toujours aimé l'image. Tu as parlé de The Voice tout à l'heure. J'étais à côté, donc j'ai une anecdote là-dessus qui m'a fait beaucoup sourire. Mais on est arrivé au moment des costumes et c'est vrai que, on voyait beaucoup de candidats parce que nous, on a été appelés, en fait. Hein, on n'a pas du tout postulé. Donc, on venait dans une démarche très récréative, en fait. Hein. Et on était dans une pièce, on attendait beaucoup de monde quand on venait d'être sélectionné et on voyait les gens faire des allers-retours après être allé chez le costumier. Et ils revenaient et on sentait qu'ils étaient un peu déguisés, quoi. Ils n'étaient pas forcément à l'aise. Et on est descendu, Gaël était habillé enfin, comme tous les jours. Déjà, le costumier en bas a cru que c'était sa robe de scène. Voilà. Mais vraiment, j'étais à côté, elle a dit non, ma robe, elle est dans mon valise. Et en fait, quand elle a sorti sa robe, je pense qu'il a tout de suite vu qu'elle avait. Il lui a dit d'ailleurs, il a dit là, tu as les proportions parfaites, artistiques, hein, elle a le sens de l'harmonie.
Mais c'est une vraie identité, et c'est ce qu'on voyait dans votre première scène à The Voice aux auditions. Directement, on vous situe tous les deux dans un contexte, dans une identité, un moment. Et c'est ça qui est très fort et qui distingue aussi peu importe jusqu'où vous êtes allé dans l'émission, au moins vous avez marqué les esprits dans cette proposition qui est très particulière aussi. J'allais faire le parallèle entre l'image et les paroles que t'écris et que vous retranscrivez. Quand on plonge dans l'écriture des chansons de l'EP, on retrouve toujours cette identité, je la qualifierais de flamboyante et de sincère à la fois. Parfois t'as des phrases qui choquent et qui interpellent directement, mais en même temps c'est toujours authentique et on sent qu'il y a beaucoup de vérité dans ce que tu dis. Tu dresses toujours un portrait de tes racines, d'un voyage intérieur aussi, toujours une quête initiatique d'identité. Et moi, ce qui m'a intéressé dans ton écriture, c'est aussi les contrastes que tu fais entre des émotions qui sont très marquées. Dans Traveler, oui. Justement, tu parles de candeur et aussi de rage, et tu mets les deux dans la même ligne. Mm-hmm. Et en fait, je trouve ça très fort, et c'est pour ça que je vais te demander ton processus d'écriture, à quel point tu mets de toi dans ta plume, et comment tu fais pour savoir de quoi parler, en fait.
En fait, pour moi, les notes, ce sont des sentiments. Je crois, là-bas, c'est comme ça que je les prends, moi, quand j'entends une note. Je ne vais pas avoir une référence musicale technique, ça va me ramener à un ressenti. Celui de Traveler, tu le précises bien, c'est un début de retour aux sources, un voyage intérieur pour essayer de reconstruire ce socle et ce changement de continent. Candeur et rage, ça ramène un peu, ça m'amène... Bonne question.
Merci.
J'ai été adoptée à l'âge de 12 ans, donc très tardivement, et on ne m'avait pas vraiment expliqué ce que ça allait impliquer. Étant donné que c'était pour me sauver la vie, donc il y avait quelque chose de très louable, presque une candeur, entre guillemets. Mais l'autre pan, c'est que on ne m'avait pas dit que ça allait durer aussi longtemps. Voilà, j'étais censée venir pour quelques semaines dans mon esprit d'enfant. Donc j'ai pu en vouloir un peu aux adultes, mais en grandissant, j'ai bien compris que s'ils n'avaient pas agi comme ça, je ne serais pas là. Donc oui, un petit mélange de cris. Quand j'ai utilisé rage, mais c'est plutôt un cri, si tu comprends ce que je veux dire.
Totalement, mais très très belle réponse. Mais merci beaucoup.
Merci beaucoup à toi.
Du coup, on a fait le tour de cette interview qui était un peu condensée, mais déjà à travers vos réponses, on entend beaucoup de vous-même. Et c'est très touchant, en fait, de vous entendre parler tous les deux. Donc, merci
beaucoup.
Je pense
qu'il n'y a pas de filtre. Vraiment, il n'y a pas de filtre en ce qu'on fait. Juste pour rebondir,
ouais, carrément.
C'est très autobiographique, hein, je veux dire, les écritures de Gaël sont, en plus d'être métaphoriques, mais sont très liées à son histoire, honnêtement.
Cette épée aussi,
ouais, cette épée, oui,
étant donné qu'on est dans les prémices d'introspection.
Et puis je pense que la vie de Gaël, on pourrait écrire une trilogie, un truc avec qui, si tu reviens nous voir avec un projet de trilogie,
une saga de 10 heures aussi.
Faire, ouais, il y a de quoi faire. Non, c'est très beau.
C'est beaucoup, du
merci
coup.
À vous. Merci.
C'était un reportage sur la release party d'Ocali, un groupe de musique. Birds flying high, I don't know how they feel. People outside, in search of something real. And I need mine to get me started. So to get me started, got to get me started. Give me baseline. We'll be right back. C'était Ezra Collective, Fit Yasmine Lessé, Gov, Me Fit for Dancing. Vous êtes sur Radio Campus Paris et tout de suite, c'est le Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonjour Clotilde.
Bonjour Fabien. La première actualité du jour en France est la réunion du comité d'alerte des finances publiques. En cause, la guerre au Moyen-Orient qui pèse fortement sur les finances de la France. Parmi les dépenses, la hausse des taux d'intérêt de la dette, le coût des opérations militaires, mais aussi les aides accordées aux secteurs les plus touchés, notamment l'énergie. Pour faire face à cette dette, le gouvernement annonce 6 milliards d'économies. 4 milliards devraient provenir du gel des dépenses dans les ministères et 2 milliards concernent la sécurité sociale. Le ministre des Comptes publics, David Amiel, appelle à un effort général. Mais cet appel à l'effort interroge. Alors que des coupes budgétaires ont déjà été engagées et que les ménages les plus modestes subissent ces coupes et disent faire des sacrifices depuis plusieurs mois face à la hausse du coût de la vie. La seconde actualité concerne une affaire de violence. Les trois policiers soupçonnés de violence et de viol au commissariat de Sarcelles dans le Val-d'Oise ont été placés en garde à vue aujourd'hui. Pour rappel, un homme affirme avoir subi des violences et un viol lors de sa garde à vue vendredi dernier, après son interpellation. Ce mardi 21 avril, l'IGPN a ouvert une enquête. Cette affaire remet au premier plan les violences policières et le contrôle des policiers. À l'international, direction le Brésil, dans la région du Minas Gerais. L'exploitation du lithium devait permettre et soutenir le développement économique local et sortir une partie de la population de la pauvreté. Mais elle entraîne aujourd'hui de lourdes conséquences, à la fois environnementales, économiques et sociales. Nuages de poussière, fissures dans les habitations, hausse des prix des loyers et risque d'effondrement de certaines maisons. La mine est exploitée par la société canadienne Sigma Lithium. Et le minerai sert à fabriquer des batteries de voitures électriques, présentées comme un élément clé de la transition écologique. Bien que son extraction reste controversée, car elle consomme beaucoup d'eau et pose aussi la question de son recyclage. Cette situation montre les inégalités de la transition énergétique entre promesses écologiques et réalité sociale. Et pour terminer sur une note plus culturelle, ce jeudi 23 avril se tiendra à la scène musicale la 4e édition de Les Flammes. La cérémonie est née d'une initiative commune entre Yard et le média Bouscapé et est dédiée au rap et aux cultures populaires. Elle vise à mettre en lumière ces cultures encore trop souvent marginalisées dans les médias traditionnels et les cérémonies musicales déjà existantes. Parmi les artistes nommés cette année, on pourra retrouver Théodora, Hamza ou encore Guy de Besbar. La cérémonie sera diffusée en direct depuis la scène musicale, en ligne et sur France 4.
Eh bien, merci Clotilde pour ce flash info. Et tout de suite, on écoute Marina Sena, Numba Ila.
Enquanto me ama.
matinale de 19h.
C'était Marina Sena, Nouma Ila.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Et je suis avec Violette qui va nous parler d'une émission sur France Culture. Pourquoi écouter l'émission Celle qui lise sur France Culture ? C'est à toi.
Alors ce soir, je vais vous parler en effet de la nouvelle série documentaire Celle qui lise, donc sur France Culture. Cette émission d'Hélène Goutani, réalisée par Anne Pérez, s'intéresse tout particulièrement aux lectrices à travers les âges. Partons ensemble de la grande révolution pédagogique au XIXe siècle, de l'apprentissage de la lecture par la méthode syllabique, encore d'actualité, pour arriver à comprendre les rouages d'une pratique dont les enjeux sont indéniablement politiques. Lire en comprenant ce que l'on lit, c'est vivre. L'émission ne se contente pas de faire l'apologie d'une lecture initiatique et formatrice, mais bien plus que cela, elle parvient à faire émerger les particularités d'une lecture spécifiquement féminine, dont l'ampleur est considérable. Longtemps cantonnés à l'apprentissage superficiel de la lecture par oui-dire, sans exploiter leur capacité de déchiffrement, les jeunes filles n'ont pourtant jamais manqué de lucidité quant à cette privation d'une ouverture au monde. George Sand écrivait même « Pourquoi faut-il qu'une femme soit ignorante ?» Au fil des 8 épisodes, nous progressons à travers diverses thématiques, notamment celle de la lecture comme soin. Et en ce moment, à l'hôpital de la Salpêtrière, la compagnie La Liseuse soigne les mots par les mots. Elle se déplace dans tous les lieux dits de publics empêchés afin de venir déclencher des réactions, des réminiscences chez les patients. Caroline Gérard, fondatrice de la compagnie, parle à ce sujet de pansement littéraire, en communion avec autrui. Tandis que Proust prenait l'idée d'une lecture silencieuse afin de laisser résonner le texte pour que quelque chose se passe à travers la forme même de l'écriture, que s'en dégage un parfum inédit, ici, la voix se présente en tant qu'outil thérapeutique, outil de présence, pour dévoiler les textes qui ouvrent des portes incroyables sur des mondes inespérés. Alors, je repense au programme de lettres de mon année de Cagne, de Madame Bovary à Lolvestein, en passant par Virginie ou Marianne. Tous les héros furent en réalité des héroïnes, au potentiel tragique. Et une seule de ces œuvres fut le fruit d'une écrivaine. Beaucoup de questions me viennent à l'esprit. Pourquoi les spécialités littéraires sont-elles majoritairement occupées par des filles au lycée et des jeunes femmes à la fac ou en classe prépa ? Est-ce le lieu commun d'une littérature dite sentimentale, qui apparaît dès les années 1820 et fait résurgence aujourd'hui dans nos esprits ? Suis-je moi-même libre de ma propre lecture ? Pourtant, je suis de celles qui veulent croire en ce que Nancy Houston appelle l'espèce fabulatrice dans son œuvre éponyme. Nous autres, simples mortels, vivons de nous raconter des histoires, et des histoires que l'on nous raconte. Et je terminerai sur ces propres mots. Le roman, c'est ce qui célèbre la reconnaissance des autres en soi et de soi dans les autres. C'est le genre humain par excellence. Et celles qui lisent tentent de nous montrer que peut-être notre salut tient à cela.
Merci Violette. Et maintenant, c'est le deuxième zoom de la matinale. Ah, on a un petit souci technique.
Le zoom dans la matinale de 19h.
Dans ce Zoom, nous recevons Pauline Ruiz et Jules Fortine, co-directeur de l'espace Monte Cristo, pour aborder l'exposition « Diseuse de silence ». C'est une exposition qui propose une vision actuelle de notre histoire contemporaine et collective à travers les voix de 21 sculptrices françaises et internationales. Vous avez vu, j'ai bien lu le site. Hein,
oui.
Bonjour Pauline Ruiz.
Bonjour.
Bonjour Jules Fortine.
Bonjour.
Et vous seriez interviewé par Betty. Bonjour Betty, et c'est à toi.
Bonjour Fabien, bonsoir Pauline Ruiz et Jules Fortine. Merci d'être avec nous.
à partir des œuvres de la collection de la Fondation Villa d'Atrice. Pauline Ruiz et Jules Fourtine, les deux commissaires de l'exposition, mais aussi la directrice de l'espace Monte Cristo, puisque Pauline a les deux casquettes, nous proposent de réfléchir collectivement à notre présent, en nous aidant des voix de 21 sculptrices françaises et internationales. Cette réflexion sculptée se déroule en ce moment même à l'espace Monte Cristo, jusqu'au 13 décembre prochain, donc vous avez le temps, mettez-le dans votre agenda pour ne pas oublier, mais vous avez quand même encore pas mal de temps. C'est dans le 20e arrondissement, proche du cimetière du Père-Lachaise, et c'est totalement gratuit. Et ça, c'est quand même très important de le dire, puisque c'est quand même assez rare. Ma première question, c'est, donc on connaît les diseuses de Bonaventure, mais pas trop les diseuses de silence. En quoi cette expression, qui peut paraître d'ailleurs assez contradictoire, vous sert-elle de fil rouge pour l'exposition?
Alors c'est vrai que diseuse de silence, ça peut sembler étrange comme expression. Et c'est vrai que cette figure de la diseuse de Bonaventure nous a inspirés. Parce que finalement, cette diseuse de Bonaventure, on la situe dans notre imaginaire collectif, contre un peu d'argent, donc un échange consenti, elle va nous raconter notre destin. Et libre à nous de soit décider d'épouser cette destinée ou encore d'en changer le cours. Et finalement, ces sculptrices, ces artistes qu'elles nous présentent avec ces œuvres, elles nous parlent en fait de notre histoire, elles nous parlent de notre monde contemporain. Et en regardant ces œuvres, on est libre en fait de soutenir leur parole et de la porter en dehors, on l'espère, des murs de l'espace Monte Cristo. Et puis le silence aussi nous a beaucoup inspirés, puisque ces œuvres peuvent parler de lutte, raconter de nouvelles mythologies, peuvent aussi parler de douleur, de violence. Et en fait, le silence, on peut le retrouver partout. Il peut toucher les hommes comme les femmes, les enfants, les adultes, toutes les couches de la société. Et donc, diseuse de silence aussi en France ou partout dans le monde. On a des artistes russes, états-uniennes, iraniennes. Et donc, diseuse de silence, c'est vraiment le titre qui nous a aidé à englober une expression qui nous permet d'englober tout le travail de ces artistes.
Super. À quoi peut s'attendre le visiteur quand il pénètre dans l'exposition?
Alors le visiteur, il peut s'attendre à la fois avoir une exposition lourde de sens, mais à la fois belle et expressive et colorée et douce et... J'ai beaucoup d'adjectifs, et chaleureuse et bienveillante. On fait des expositions depuis quelques années avec Pauline, et on essaye d'associer le message à l'image, la sculpture, à ce qui nous entoure, au phénomène du quotidien, à ce qui nous perturbe nous aussi. On a un espèce de message commun avec les artistes quand même qu'on partage et qu'on aime donner au public, et le public, semble-t-il, est réceptif à ce message-là aussi. Donc, a priori, ce que le public peut trouver quand il viendra dans l'exposition, c'est une oreille attentive.
Okay.
et des sensations communes.
Et si, de manière très pragmatique, quand je vais rentrer dans l'exposition, si je me mets en situation, qu'est-ce que je vais voir? Peut-être la première œuvre, si vous pouvez m'en parler.
Oh, la première œuvre, elle claque.
Okay. C'est peut-être une surprise, je ne veux pas trop...
On peut dévoiler quand même certaines choses.
Il y a
une très belle œuvre de Raymond Darcier. Raymond Darcier, c'est une artiste qui a 83 ans. C'est un peu la doyenne de l'exposition. On était très heureux de la mettre dans la première salle et donc d'initier un petit peu ce discours. C'est une artiste qui s'est révélée artiste après sa première participation à une réunion du MLF. Donc, du mouvement de libération des femmes. Et elle est rentrée chez elle, elle a fait sa première œuvre. Elle s'est dit waouh. Et donc, elle s'est découverte féministe, elle s'est découverte artiste. Et c'est super intéressant parce que quand elle parle de son œuvre, on a l'impression qu'elle parle de ce qui se passe aujourd'hui. On retrouve dans la vie, comme elle la raconte, toutes les œuvres des autres artistes. Et donc, elle a fait une très grande armure. Elle est vraiment très grande.
Elle est très belle.
Ouais, elle est très belle. Et elle a fait en laiton, donc elle est comme ça, brillante. Il y a de la rayonne dessous, donc c'est une espèce de duvet, peut-être que mettait votre grand-mère sur son lit. passe. Donc il y a cette armure qui est là à la fois pour défendre, et puis à l'intérieur, il y a cette rayonne qui est toute douce, qui montre qu'en fait, il y a de la tendresse à l'intérieur. Et qu'il y a des grands yeux qui nous regardent, qui nous observent, parce qu'en fait, elle fait toujours des autoportraits.
Okay.
Et alors, ces grands yeux, ils sont intrigants, et puis en plus, on se sent attendri. Elle a un petit peu une espèce de houppette un peu étrange qu'elle a réalisée avec des plumeaux, parce que c'est une artiste qui s'est vraiment interrogée sur la maison, parce que les femmes sont souvent ramenées à l'intérieur, au domestique, et donc elle a pris plein de choses de la maison, et puis voilà, les plumeaux, elle a utilisé des plumes de plumeaux pour réaliser une petite houppette. Mais vous allez découvrir aussi des cabanes lumineuses qui chuchotent avec des diamants multicolores, des sentinelles cachées dans des arbres, et puis des corps fontaines qui chantent et qui font de la fumée quand même. Donc il y a des choses à voir.
Ça a l'air fabuleux. Si on n'est pas trop expert de la sculpture, parce que ça peut aussi un peu effrayer la sculpture contemporaine, si on n'est pas très connaisseur, est-ce que c'est aussi adressé à nous? Et est-ce qu'il y a des activités, des médiations qui sont faites? Si on a des questions, comment ça se passe?
Alors, oui. Quand on pense aux expositions, on part toujours sur un parcours et on se dit qu'on prend chaque visiteur, visiteuse par la main et qu'on l'amène étape par étape jusqu'à la fin de du message qu'on veut amener. Donc c'est toujours progressif. D'abord on raconte nos mythologies, ensuite on entend des luttes, ensuite on capture des silences, donc jusqu'à la carte blanche qui est un bouquet final. Donc oui, tout le monde peut venir, c'est ouvert à tous, c'est gratuit, donc pour que plus de monde puisse venir, pouvait revenir en deux fois, en trois fois. Il y a des gens qui viennent sept fois, nos visiteurs les plus fidèles pour une exposition, avec leurs cousins, avec leurs voisins. Donc, bien sûr, tout le monde est bienvenu. Il y a des textes qui sont conçus pour être super agréables à lire, dans le sens où pas difficile,
accessible.
Et puis il y a toujours des médiateurs, médiatrices en salle qui sont là pour discuter tout simplement qu'est-ce qu'on ressent devant cette œuvre, à quoi ça nous fait penser. Toutes les réponses sont bonnes en fait, l'important c'est qu'il échange, mais il y a aussi notre programmation.
Comment l'a pensé pour être un lieu de partage? C'est un lieu qui est ouvert à beaucoup d'interprétations aussi, en termes d'œuvres, en termes de textes, en termes de scénographie. Donc oui, c'est important de recevoir un public qui est susceptible de pas connaître la sculpture contemporaine. Et au contraire, on est un lieu qui justement voudrait favoriser cet accès-là. Donc on a essayé de faciliter les choses pour le public et... Nos premiers visiteurs sont souvent des enfants et on pense beaucoup à eux quand on fait les expos.
Il y a les livrets jeux, il y a des jeux de pistes et puis aussi toute notre programmation. Donc il y a des ateliers pour les 0-3 ans, les 3 mois à 3 ans, l'éveil à la sculpture, l'exploration en famille, des ateliers de création, des workshops aussi avec les artistes. Et puis bien sûr, les grands rendez-vous, les temps forts avec la nuit des musées, nuit blanche, les journées du matrimoine et tout un tas de nocturnes à la lampe torche. Des choses où on essaie de vous surprendre toujours et de créer des rendez-vous qui sont à la fois ludiques, où on peut apprendre. Et en même temps, on passe un bon moment d'échange.
L'année dernière, on a fait intervenir du théâtre d'improvisation ou des lectures drag. On a fait des événements
dans l'espace.
Dans l'espace.
Ok. Et ça, si je suis intéressée par toutes ces événements, je fais comment? Je vais sur votre site. Vous avez une page Instagram. Comment on peut un peu
On est partout. Site internet, bien sûr, et Instagram. Tout. Alors nos réseaux, oui, on est sur Instagram, TikTok, encore Facebook. Si vous êtes de ceux-ci, on est nous. On est encore là-dessus aussi. LinkedIn, si vous avez passé aussi cette barrière-là. Mais oui. Bien sûr, la programmation elle est aussi disponible. Si vous passez devant, on est toujours là pour répondre à tous ces événements-là.
Tu avais une question peut-être?
Non, j'écoutais simplement.
Super.
J'étais très attentif.
Vous avez parlé donc de la carte blanche cette année qui a été attribuée à l'artiste iranienne Yosra. Enfin, on n'a pas dit son nom, mais c'est une artiste iranienne, donc Yosra Mojtahedi. Peut-être que j'écorche son prénom, peut-être. Enfin, son nom de famille. C'est parfait, nickel. Qu'est-ce que vous pouvez un peu nous dire de son travail? Pourquoi cette carte blanche pour cet artiste? Voilà, c'est un peu le bouquet final de l'exposition.
Exactement.
Peut-être
oui.
Voilà, deux, trois mots.
Quand on vous embarque dans une exposition, il faut bien choisir le final. Et donc, c'est comme je disais tout à l'heure, ces œuvres, elles sont fortes en message, elles sont surprenantes. Et on avait envie de terminer ce voyage par quelque chose qui était de l'ordre de la sensation, qu'on sorte de notre tête et qu'on explore. Yousra Mojtahidi, elle crée des paysages, elle crée des choses magnifiques, elle travaille beaucoup sur le noir et aussi sur le contraste avec le blanc. Donc on est dans un paysage, il y a des choses à sentir, il y a des choses à toucher, des choses à observer bien sûr, et puis c'est vraiment dans un univers entièrement sensoriel. Sa carte blanche s'appelle Isthme Noir, donc c'est vraiment ces territoires entre deux continents, entre deux frontières. Et en fait, elle disait, Yousra, qu'elle est loin de son pays depuis 12 ans. Mmh. Et en même temps, elle a ce nouveau pays qui est le sien, la France. Et en fait, elle est entre deux. Elle avait envie de nous proposer un paysage sans frontières, très libre, très ouvert. Et on avait envie de terminer là-dessus. On aime, avec les cartes blanches, avoir une artiste qui va symboliser un peu toutes les choses qu'on avait envie de raconter. Et c'est vrai qu'elle s'invente une nouvelle mythologie. Elle porte des luttes très fortes liées à son histoire. Et aussi, elle nous embarque vraiment dans un imaginaire très fort.
Le principe de la carte blanche offre un espace de création et d'exposition assez singulier pour un artiste. Donc souvent, c'est un travail qui n'a pas été vu ailleurs. C'est un travail inédit, c'est un travail qui a été créé de toutes pièces quelques semaines avant. En l'occurrence, en ce qui concerne, il y aura quelques jours parfois. On a des œuvres quasiment sorties du four qui nous arrivaient. Et donc c'est aussi une façon de découvrir le travail d'un artiste qui n'est pas possible en galerie ou sur des foires autrement en tout cas, oui.
Super, et ben c'était super intéressant. Je sais pas en termes de timing, désolé. C'est bon, j'ai le temps. vous nous avez un peu parlé du parcours de l'exposition, de raconter les. Enfin, vous pouvez un peu nous. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus de choses sur le parcours de l'exposition, excusez-moi.
Oui, bien sûr. C'est une exposition qui rassemble uniquement des sculptrices. Et c'était intéressant en se posant la question de ce qu'elles vont amener à la lecture de notre histoire contemporaine, de voir quels étaient les thèmes qui pouvaient les rassembler. Et c'est vrai que pour revisiter notre histoire, il faudrait la réinventer déjà. Regarder nos socles communs, regarder nos mythologies. Et alors, on a des artistes qui ont re-questionné la figure de la Madone, de la Vénus, de la Cariatide, de la Sentinelle, de la Gardienne. Et ce sont des belles, belles figures féminines, comme celle de la sorcière, qui ont entièrement revisité en ce moment, qu'on représente de moins en moins avec une verrue sur le nez et sur un balai magique, mais plus comme une botaniste, une sachante, une sage-femme. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est celle d'entonner nos luttes. Porter des luttes, c'est très fort, mais on peut commencer par les chanter doucement, des choses sur la nature, sur la fraternité, la sororité, et puis pour finir parler des silences, de ce qu'on ne dit pas, des violences qui ne sont pas mentionnées, et avoir la force de les raconter, ces histoires qu'on n'a jamais entendues. Donc oui, un beau parcours à découvrir avec plein de choses. Et puis, ça se termine par des rubans. Les rubans d'Audrey Bowers, c'est une œuvre qui sera activée pour les journées du matrimoine en septembre. Vous pourrez repartir avec votre ruban chargé de forts slogans. Et pour le reste de l'année, des petits rubans vous seront proposés qui portent les slogans de l'exposition.
Super. Et si, un peu pour conclure, vous aimeriez que le visiteur parte avec quoi quand il s'en va de cette exposition, en quelques mots, qu'est-ce que vous aimeriez qui se soit dit, sur quoi il aurait réfléchi,
plein de réflexions, plein de réflexions, qu'il est temps de faire justice, qu'il est temps de faire réparation, qu'il est temps de se déconstruire, qu'il est temps de regarder les choses en face et
d'écouter les silences.
Ok,
super. Bah, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
C'est donc à l'Espace Monte Cristo jusqu'au 13 décembre prochain. Donc, vous avez encore le temps.
Oui.
Voilà, et merci beaucoup. N'hésitez pas à y aller, c'est passionnant.
Eh bien, merci Pauline Ruiz, merci Jules Fortin. Et juste, j'ai exactement, l'exposition est là jusqu'au 13 décembre, donc vous avez le temps pour y aller. Et maintenant, on écoute I Am Sorry Maria de Leila Ebrahim. Do you miss me, Maria? Are you sad that I'm gone? I can't stop it, Maria.
C'était I Am Sorry Maria de Leila Ebrahim.
La matinale de 19h.
Et je suis avec Salomon Patrick qui va nous parler du décryptage d'un parcours du combattant pour la recherche d'un logement. Tout le monde sait que c'est très difficile et il va nous expliquer cela. Bonjour Patrick.
Bonjour, bonjour à tous. Ce soir on parle d'un truc basique, se loger. Un toit, quatre murs. Une porte qui ferme, rien d'extraordinaire. Et pourtant, en 2026, en France, ça devient compliqué. Alors je pose une question simple. Est-ce que se loger est encore un droit ou c'est devenu un luxe? Aujourd'hui, pour louer un appartement, il faut quoi? Un CDI, trois fois le loyer, un garant et même parfois un garant du garant. Franchement, à ce niveau-là, c'est plus un logement, c'est un entretien d'embauche. Et cet entretien d'embauche, tu envoies ton dossier, tu attends et souvent silence radio. Alors je me demande, est-ce que travailler suffit encore pour vivre normalement? Parce que la réalité, elle est là. Des gens travaillent et pourtant galèrent à se loger. Certains dorment chez des proches, d'autres enchaînent des solutions temporaires et certains n'ont même pas cette option. Et pendant ce temps-là, il y a des logements vides. Oui, vides. Alors où est-ce que ça bloque? Et puis il y a les étudiants. Eux, ils cherchent un studio et ils trouvent quoi? Des 9 mètres carrés hors de prix. 9 mètres carrés, franchement, à ce niveau-là, t'habites pas. Tu t'organises à rentrer dedans. Comment tu veux étudier, te concentrer, avancer dans ces conditions? Pour un logement, pour qu'un logement ne soit pas juste un toit, c'est la base. C'est là où tu te poses, où tu respires et tu construis quelque chose. Et sans ça, tout devient plus difficile. Chercher un travail, garder un équilibre, se projeter. Alors, je repose la question, est-ce qu'on construit encore des solutions ou est-ce qu'on s'habitue à la galère? Parce qu'à force, le problème, c'est qu'on finit par trouver ça normal. Et ça, c'est peut-être plus inquiétant. Comme le dit un proverbe, quand l'habitude devient la norme, on oublie qu'il y a un problème. Alors, peut-être que la vraie question, elle est là. Au fond, on s'y habitue. Elle est simple. On attend quoi? Qu'il devienne officiel, qu'on lui donne un numéro de sécu ou une carte vitale tant qu'on y est. Merci, bonsoir.
Eh bien, merci Patrick pour cette chronique sur le décryptage d'un parcours du combattant à la recherche d'un logement. Et la matinale se termine. Ça y est, la matinale se termine. Merci à Betty et Pauline Ruiz et Jules Fontaine Fortine pour de l'espace Montré Cristo. Merci à Clotilde pour le Flash Info. Merci à Violette et Patrick pour leurs chroniques respectives. Restez à l'écoute de Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est à Contre-Taf à 20h, le temps d'une chanson à 21h. Passez une bonne soirée avec Radio Campus Paris.